Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous et bienvenue dans Géopolitique que vous pouvez également écouter en podcast. Partout dans le monde, chaque société ou gouvernement tente de comprendre l'impact que va avoir la victoire de Donald Trump. Son retour à la Maison-Blanche est largement susceptible de bouleverser des équilibres mondiaux déjà bien fragiles. Les analyses contemporaines du monde sont dominées aujourd'hui par des termes allant de confusion à incertitude en passant par désordre, chaos ou encore le n'importe quoi. Beaucoup partagent ce sentiment étrange que tout va de plus en plus vite, de plus en plus mal, sans que personne ne contrôle quoi que ce soit. Sommes-nous en période de transition historique? La mondialisation économique est-elle menacée? L'Europe condamnée à l'impuissance? Quelle place pour le Sud dans ce nouvel échiquier mondial? Notre invitée, Nicole Niesoto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors et professeure émérite au CNAM, qui vient de publier « Choisir l'avenir, 10 réponses sur le monde qui vient » au CNRS édition. Bonjour Nicole Niesoto.
Bonjour Marie-France Chatin.
Et cette précision, nous ne sommes pas en direct, l'actualité peut avoir évolué. Je vous invite à écouter nos journaux. Le sommet du G20 à Rio, au Brésil, cette semaine, a mis en lumière la mésentente entre occidentaux et États émergents du Sud, le fossé chaque jour plus profond à mesure que le conflit évolue entre la Russie et l'Ukraine. La guerre n'a cessé de peser sur les discussions, qu'il s'agisse du risque d'embrasement au Proche-Orient, mais surtout du conflit entre Moscou et Kiev. Donald Trump, nouvellement élu, n'était bien sûr pas présent à Rio. Son entrée en fonction n'intervenant que le 20 janvier prochain. Que peut-il se passer d'ici là? Un dérapage est-il possible? Après avoir obtenu le feu vert de Joe Biden, l'Ukraine a mené cette semaine de premières frappes à l'aide de missiles américains sur des cibles militaires sur les territoires russes. Une évolution que Moscou considère comme une nouvelle phase de la guerre occidentale contre la Russie et annonce une réaction en conséquence. À Rio, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a suggéré aux alliés de Kiev de lire la totalité de la toute nouvelle doctrine russe qui prévoit d'élargir la possibilité du recours à l'arme atomique contre un État non doté, aidé par une puissance militaire. Nicole Niesoto, est-ce qu'on assiste à une escalade?
Alors, je crois qu'honnêtement, personne ne le sait. Il y a deux options. On est soit dans une escalade avant la paix, c'est-à-dire une espèce de tactique de négociation assez habituelle où on fait monter les enchères à la fois sur le terrain et dans la rhétorique pour essayer d'avoir de plus d'atouts possibles avant d'ouvrir une négociation, soit on est dans une escalade tout court qui pourrait éventuellement déboucher sur un vrai conflit. Et très franchement, personne aujourd'hui, à part peut-être les services de renseignement très très haut placés, ne peut dire que c'est plutôt l'un ou l'autre des scénarios. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a eu le supposé coup de fil de Donald Trump à Vladimir Poutine. Je dis supposé parce que les Russes ont démenti. Il y a eu l'appel du chancelier allemand Scholz à Vladimir Poutine et la réponse a été le lendemain une inondation de missiles sur l'Ukraine. Donc ça, c'est pas très positif, en particulier sur le désir de Poutine d'ouvrir des négociations de paix maintenant. Il y a eu ensuite l'accord donné par le gouvernement Biden, encore en fonction pour 2 mois, d'utiliser des missiles américains de moyenne portée sur le territoire russe. Et la réponse a été du côté de Poutine, une modification, comme vous l'avez dit, de la doctrine nucléaire. Encore que ce n'est pas une modification majeure, mais bon. Et donc là aussi, on peut se dire que Poutine n'est pas encore ou pas du tout dans un objectif, une perspective de négociation. Donc, voilà, on est dans une situation, je crois, extrêmement délicate, où une mauvaise interprétation est possible. Les Occidentaux sont tous convaincus que Poutine n'ira pas très loin. Mais je rappelle qu'en février 2022, personne ne croyait à l'attaque russe, même pas les Ukrainiens, et je dirais même surtout pas les Ukrainiens. Les Américains les avaient prévenus depuis quelques semaines, depuis 2 ou 3 semaines, les Américains disaient « il va attaquer, on s'en va, on ferme notre ambassade ». Personne ne le croyait, et les Ukrainiens non plus. Aujourd'hui, on est un peu dans la même situation. Les Américains ont fermé leur ambassade, d'autres pays européens ferment leur ambassade à Kiev, et Volodymyr Zelensky continue de dire « mais non, il n'y a pas de problème », etc. Et donc voilà. Moi, je crois qu'on est plutôt dans la situation, mais encore une fois, je peux me tromper, d'une escalade avant l'ouverture d'une négociation, mais sachant que celle-ci ne peut pas avoir lieu avant le 20 janvier prochain, comme vous l'avez dit. Donc, il reste quand même 2 mois sur lesquels il peut se passer beaucoup de choses sur le terrain. Il va y avoir la guerre, il va y avoir le froid. Et les Russes peuvent espérer grignoter beaucoup, beaucoup, beaucoup pour être arriver en position de force. En
position de force pour les négociations. Donc, on a matière à s'inquiéter oui. du temps qui nous sépare du 20 janvier, date de l'intronisation de Donald Trump à la Maison-Blanche. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'engagement de la Corée du Nord avec l'envoi de troupes et l'élection de Trump, finalement, ont aussi contribué à bouleverser la donne, Nicole Niesoto ?
Alors, l'élection de Trump, très certainement. Parce qu'il a dit depuis très longtemps dans sa campagne qu'il allait régler le problème en 24 heures, parce qu'il se targue d'avoir des bonnes relations avec Poutine et parce qu'il met l'ensemble de ses alliés européens dans un état d'expectative angoissante. Et donc je pense que l'élection de Trump est un vrai tournant dans la guerre. Et d'ailleurs, il ne faut pas exclure que si jamais Poutine refuse l'offre de négociation que va faire Trump, faut pas exclure que Trump, vexé, dise « Ah bon, tu veux pas accepter mon deal, territoire contre mesures de sécurité ? Bah, puisque c'est comme ça, bah, moi je reprends mes billes et je défends l'Ukraine encore plus que jamais, je vais même plus loin, je mets l'Ukraine dans l'OTAN et comme ça, tu as tout perdu. » Voilà, on ne peut pas exclure ça. Et donc Poutine doit le savoir également. En revanche, bon, la participation de la Corée du Nord, de 10 000 soldats de Corée du Nord dans le conflit, c'est évidemment une escalade. Avec la participation sur le terrain d'un pays étranger à la zone. Mais moi, personnellement, je n'y vois pas un tournant. D'abord, je pense que beaucoup de ces soldats ont accepté pour peut-être pouvoir s'enfuir et se libérer de la Corée du Nord. Je ne suis pas sûr que leur engagement soit vraiment pour défendre la Russie. C'est peut-être tout simplement pour essayer de se trouver une porte de sortie eux-mêmes. Deuxièmement, on dit, certains rapports ont dit qu'en fait, la Corée du Nord donc, s'est fait payer. Donc, c'est une espèce d'achat par les Russes de soldats. Et à mon avis, donc, c'est pas extensible à l'infini. Et troisièmement, ce sont des soldats qui connaissent pas le terrain, qui sont mal entraînés, qui parlent pas les langues. Donc, à moins de servir de chair à canon pour les Russes, ce qui est possible, je vois pas, personnellement, je ne trouve pas que c'est un changement dramatique dans le déroulement des conflits. C'est un changement politique, mais la Corée du Nord étant un acteur très marginal sur le plan européen, moi, je ne lui accorde pas une importance démesurée. Je ne dis pas, par exemple, que c'est une escalade. C'est plutôt la preuve que les Russes ont besoin, que les soldats russes ne veulent pas y aller, que Poutine hésite à mobiliser en masse, que les mères russes qui se révoltent contre l'absence de nouvelles de leur fils sont quand même le seul élément puissant que le pouvoir russe considère.
Donc, un reflet, finalement, de la faiblesse de la Russie.
Ça peut être interprété en partie. Je pense que c'est un peu de tout en même temps. Ils sont faibles, donc ils préfèrent prendre des soldats coréens que des Russes, en plus, bon, qu'ils peuvent acheter. Ils ont besoin de montrer qu'ils ne sont pas isolés sur la scène internationale. Alors, c'est évidemment impossible d'avoir des soldats chinois, ce qui serait là vraiment le début d'une guerre mondiale, peut-être. Bon, alors, ils ont pris des soldats nord-coréens. Moi, personnellement, je sais que je ne suis pas du tout dans la ligne de l'analyse traditionnelle que l'on fait en Occident. J'y vois un élément, certes, important, mais j'y vois pas un tournant dans la guerre. Ce que je vois comme tournant dans la guerre, c'est effectivement la politique que Trump pourrait suivre. Et encore une fois, cette politique, elle est soit celle qu'il a annoncée, une politique de recherche d'un compromis diplomatique au détriment, si besoin, de l'Ukraine, parce que je crois qu'il a... C'est pas tellement son premier intérêt, l'Ukraine. Mais il pourrait également aller dans le sens totalement inverse, d'une surenchère dans la défense de l'Ukraine, si Poutine ose lui faire un affront et ne pas accepter son deal.
Géopolitique, Marie-France Chatin. We'll be right back.
Alors, la décision de Joe Biden d'autoriser l'utilisation de missiles américains pour attaquer le territoire russe, est-ce que vous la comprenez, cette décision ? Qu'est-ce qu'on peut imaginer du champ d'action de Biden d'ici au 20 janvier ? On a aussi évoqué à un moment le placement de la Russie sur la liste de soutien au terrorisme, au prétexte qu'il ait soutenu le Hezbollah, le Hamas, etc. Vous y croyez ? Enfin, voilà, la décision de Biden, vous la comprenez Nicole Niesoto.
Alors, c'est une décision qui s'est fait attendre pendant très longtemps. Mmh. Les Ukrainiens le demandent depuis longtemps. La moitié des Européens est pour, l'autre moitié était contre. Donc l'OTAN était très divisée sur cette question. Moi, je suis surprise du timing. C'est-à-dire qu'alors qu'il sait que les démocrates ont perdu, qu'il ne sera pas président et que le prochain président sera d'un bord et d'une analyse totalement différente, je suis étonnée par le timing de sa décision. Normalement, une administration perdante ne prend pas des décisions très importantes, sauf urgence. Alors, est-ce que l'administration Biden a considéré qu'il y avait urgence militaire ? C'est possible. Avant l'hiver, avant le froid, voyons que la Russie progresse. Elle grignote tous les jours un peu plus du territoire ukrainien. Est-ce qu'ils ont pensé qu'il y avait un vrai risque que les Russes arrivent pratiquement jusqu'à Kiev avant le 20 janvier ? À ce moment-là, ils ont pris cette décision, ce qui serait justifié. Mais est-ce que c'est au contraire uniquement pour Biden de marquer l'histoire d'une certaine façon en disant qu'il a essayé jusqu'au bout de sauver l'Ukraine et que ce sont les républicains qui l'ont abandonné à la pâture russe, ce serait moins légitime. En tout cas, moi, c'est le moment qui m'étonne et donc je préfère penser que c'est parce qu'ils ont analysé la situation de l'Ukraine comme étant très très faible avant l'hiver qu'il a pris cette décision. Est-ce que ça va changer la donne ? Alors, c'est une autorisation d'utiliser ces missiles qui n'ont pas une grande portée malgré tout. Hein. Ce n'est pas des missiles qui peuvent détruire Moscou. Ce sont des missiles qui ont une portée qui peuvent aller jusqu'à 300 km à l'intérieur de la Russie. Donc, c'est quand même quelque chose. Mais les Ukrainiens ont déjà attaqué des morceaux de territoire russe depuis cet été. Donc, ce n'est pas une première, l'attaque sur territoire russe. Là, ça serait une première parce que ça irait beaucoup plus loin dans la profondeur et que ça permettrait de détruire des bases arrières de la Russie. Mais il y a effectivement un risque que les Russes s'en servent comme prétexte pour aller, eux, de leur côté, encore plus loin dans l'escalade.
Alors, Nicole Niesoto, j'évoquais en introduction le sommet du G20. On y reviendra, mais sur une autre thématique. Zelensky est intervenu par visioconférence pour dénoncer l'absence de stratégie forte à l'égard de l'Ukraine. Est-ce que vous avez, comme beaucoup, le sentiment que finalement, on n'a vraiment pas donné assez de moyens à l'Ukraine pour se défendre contre la Russie ?
Non, moi je n'ai pas ce sentiment. J'ai le sentiment qu'on a beaucoup aidé l'Ukraine, beaucoup financièrement. Enfin, les Européens sont à peu près à 90 milliards d'aides, à la fois militaires, civiles, humanitaires, enfin tout ce qu'on veut. Pardon. Les Américains sont à peu près 60-70 milliards également d'aides, essentiellement militaires, eux, de leur côté. Donc, les Occidentaux, entre guillemets, qui sont pas le G20, hein, qui sont une petite partie du G20, ont fait énormément, je trouve, pour soutenir l'Ukraine, et y compris pour soutenir militairement l'Ukraine. En revanche, je trouve qu'on ne s'est pas mis d'accord entre Occidentaux. C'est pour ça que je trouve que le G20 est une enceinte un peu curieuse, parce qu'il y a des pays qui n'ont pas la même politique que nous sur cette question. Mais en tout cas, ce qu'on n'a pas fait, on a une stratégie vis-à-vis de l'Ukraine, mais on n'a aucune stratégie vis-à-vis de la Russie. Et on n'a pas essayé de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on fait avec ce pays. Est-ce qu'on essaye de l'affaiblir coûte que coûte jusqu'à la fin? Déjà, économiquement, la Russie est très, très affaiblie. Elle est vraiment en économie de guerre. Donc, est-ce qu'on essaye de faire en sorte que le régime s'effondre par épuisement économique, ce qui était une stratégie tout à fait plausible ? Est-ce qu'on essaye de maintenir la guerre coûte que coûte, y compris avec des gros dégâts en Russie, de façon à susciter une révolte, entre guillemets, populaire, ou en tout cas, peut-être, une révolte des élites russes, de la mafia russe, qui n'a pas envie, quand même, de voir toutes ses richesses remises en cause. Est-ce qu'on est prêt ensuite à mettre une espèce de nouveau rideau de fer ? Qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut un rideau de fer entre la prochaine Ukraine libre et la Russie, et exclure carrément la Russie de l'ensemble des rapports internationaux? Est-ce qu'on pense au contraire qu'il faut malgré tout prendre acte du fait que la Russie, elle n'est pas près du Burkina Faso, la Russie est en Europe, donc faudra bien un jour trouver une solution pour avoir des relations avec ce pays. En fait, voilà, moi ce qui me frappe, c'est qu'on a une stratégie assez unitaire sur l'aide à l'Ukraine, la défense de l'Ukraine. Les Européens sont allés très loin, puisqu'ils ont pris la décision quand même d'accepter l'Ukraine comme membre plein de l'Union européenne d'ici la fin des années 2020. Donc d'ici 5-6 ans, l'Ukraine sera un pays membre de l'Union européenne. Donc je trouve que c'est quand même une prise de responsabilité politique assez forte. Mais on n'a pas fait l'effort d'essayer de se mettre d'accord sur une attitude vis-à-vis de la Russie. Et ça, évidemment, pénalise ou affaiblit notre première stratégie de soutien à l'Ukraine.
Évidemment, tout cela sur fond de désunion, d'une certaine manière, de l'Union européenne. Tous les pays ne sont pas d'accord quant à la stratégie à adopter. Notamment, je pense à Viktor Orban, qui est à la tête de l'Union européenne depuis le 1er juillet et le sera jusqu'à la fin du mois de décembre. Il sera suivi par la Pologne. Et ça va être intéressant de voir quel va être, à partir de janvier prochain, le rôle de la Pologne, qui va avoir beaucoup à faire, finalement, à gérer l'arrivée de Donald Trump ou le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Mais avant cela, il y a une inquiétude qu'ont les Européens, Nicole Niesoto, c'est dans l'hypothèse où des négociations seraient entamées à la arrivée de Donald Trump le 20 janvier prochain avec la Russie sur la question de l'Ukraine. Inquiétude que les Européens ne fassent pas partie des négociations. Comment cela pourrait-il être possible ?
Ah ben c'est plus que possible, c'est probable. En tout cas, si on prend ces deux personnages totalement irrationnels que sont Trump et Poutine, pour eux, l'Europe, ça n'existe pas. C'est benign neglect. Et donc, il est très possible que s'ils arrivent à trouver intéressant chacun pour eux-mêmes l'idée d'un dialogue et donc d'un accord sur l'Ukraine, il est très possible qu'ils le fassent en bilatéral. Comme autrefois, le général de Gaulle parlait du condominium américano-soviétique, il est très possible que les deux ressuscitent, même sans idéologie, de facto, cette espèce de condominium avec aucune voix donnée ou très peu de voix données aux Ukrainiens qui n'auront qu'à accepter les choses et encore moins données aux Européens. Je crois que là, pour les Européens, c'est la bataille essentielle. Il faut qu'on soit à la table des négociations. On ne peut pas accepter qu'un pays membre ou futur membre de l'Union européenne, mais qui est pratiquement déjà de facto considéré comme membre de l'Union européenne, voit son statut de sécurité, son statut politique imposé par deux pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne. C'est-à-dire, on ne peut pas. Vous savez qu'il y a plusieurs options. Poutine voudrait que s'il y a une négociation, l'Ukraine soit totalement désarmée et neutralisée. Les Ukrainiens voudraient, s'il y a négociation, que l'Ukraine soit prise dans l'OTAN pour être défendue à l'avenir dans 5-6 ans contre une revanche russe pour être défendue par l'OTAN. Donc, à mon avis, ces deux options extrêmes sont les deux impossibles. L'Ukraine ne sera pas dans l'OTAN, mais elle ne sera pas non plus un pays neutre et désarmé. Et donc, entre les deux, c'est quelles garanties de sécurité on pourrait donner à l'Ukraine ? Et qui les donnerait ? Et comment ? Et ça, c'est impossible que les Européens soient mis devant un fait accompli. Donc, je crois que la grande bataille des Européens va être effectivement d'être à la tête des négociations. Mais pour ça, il faut montrer aux autres qu'on le veut, qu'on est capable et qu'on n'acceptera pas ce qui est contre nos intérêts. Donc, ça va être très difficile pour les Européens.
Donc, faire montre d'une véritable volonté politique.
Oui, absolument, pour faire montre d'une unité. Mais je ne voudrais pas que nos auditeurs concluent en disant que les Européens sont trop nuls et que finalement, ce n'est pas la peine. Mais regardez, il y a une difficulté propre à l'Union européenne. Si on dit qu'il faut que les Européens soient à la table de la négociation, c'est qui l'Européen qui va être ? On ne peut pas arriver à 7. On ne peut pas arriver avec la présidence du Conseil, la Commission, la présidence en exercice, plus la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Pologne, qui sont les grands pays de l'Union européenne. Donc, on ne peut pas arriver à 7. Donc, comment va-t-on choisir s'il y a une personne qui représente l'Union européenne ? Ça ne peut pas être la Commission européenne, puisqu'elle n'a pas de compétences en matière de sécurité ni de défense. Ça pourrait être le président du Conseil européen, le nouveau président du Conseil européen, le portugais M. Costa. Ça, c'est possible. Et puis, à côté, les États membres, en particulier la France, France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, qui n'est pas membre de l'Union européenne, mais qui a beaucoup donné aussi sur l'Ukraine, se battront pour être à la table. Donc, ça risque d'être une négociation très compliquée, presque aussi compliquée que le contenu même de la négociation.
Nicole Nisotto, on vous retrouve après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Notre invitée, Nicole Nisotto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors et professeure émérite au CNAM, qui vient de publier « Choisir l'avenir, 10 réponses sur le monde » qui vient au CNRS édition. Nicole Nisotto, on a parlé de l'Ukraine dans la première partie de l'émission. Certains estiment que l'Ukraine est une répétition générale de ce qui pourrait advenir à Taïwan. Les Chinois observent à la loupe ce qui se passe en Ukraine. La question de Taïwan, elle est omniprésente dans les discussions aux États-Unis notamment. Elle ne l'est pas en Europe. Est-ce que ça vous surprend ?
Non, pas du tout. Ça ne me surprend pas, tout simplement parce que ni historiquement, ni géographiquement, Taïwan n'a été dans l'orbite stratégique des pays européens, à part la France et la Grande-Bretagne qui ont toujours eu des intérêts dans le ce qu'on appelle maintenant l'Indo-Pacifique. Pour les Européens, Taïwan, c'est une question historiquement secondaire. C'est de moins en moins vrai depuis que les Américains en ont fait une priorité de leur politique extérieure et depuis Obama, enfin depuis le deuxième mandat d'Obama, les Européens d'ailleurs ont adopté une stratégie sur l'Indo-Pacifique et répètent que avec les Américains, ils défendront la démocratie à Taïwan si jamais il advenait que les Chinois rompent l'ambiguïté du statut de l'île aujourd'hui. Donc ça ne me surprend pas qu'il n'y ait pas un débat sur Taïwan, d'autant que la priorité c'est quand même le débat sur l'Ukraine et quand il existe, moi je suis plutôt surprise qu'il n'y a pas vraiment de grand débat sur l'Ukraine et la Russie. Donc ça ne me surprend pas du tout. Et je pense qu'en tout cas, l'arrivée de Donald Trump peut changer un peu, oui, amener à une certaine modification.
De quelle manière ?
Donald Trump n'est pas, en tout cas ne s'est pas présenté jusqu'à maintenant, comme un dit idéologue farouchement défenseur de la démocratie. Alors que toute la rhétorique de l'administration Biden a été la lutte de la démocratie contre les autoritarismes et que Taïwan devait être le fer de lance de la démocratie et qu'on serait prêt à défendre la démocratie à Taïwan. Je pense que Donald Trump ne va pas enfourcher cette rhétorique. Les Américains ont des intérêts à Taïwan parce que, comme tout le monde, il y a des semi-conducteurs qui sont faits là et donc c'est un intérêt stratégique pour les Américains. Mais je ne suis pas sûre que pour Donald Trump, l'affrontement avec la Chine, qui est vraiment sa priorité, passe par un affrontement stratégique sur Taïwan. Je pense que c'est d'abord un affrontement commercial, un affrontement technologique, un affrontement sur les GAFA, et qu'il ne fera pas de Taïwan la priorité qu'en avait faite Biden. Ça ne veut pas dire qu'il laissera les Chinois faire ce qu'ils veulent à Taïwan, mais je pense qu'en tout cas, au niveau de l'argumentaire, s'il veut convaincre les Européens de défendre Taïwan, il n'utilisera pas l'argumentaire de la défense de la démocratie contre l'autoritarisme chinois. Il est le premier lui-même à pulvériser tous les fondements démocratiques des États-Unis, donc jusqu'à aller à demander au Sénat de se départir de sa fonction constitutionnelle. Enfin, on est vraiment dans un délire complètement mégalomane. Donc là, je crois que pour les Européens, ça sera une vraie différence. Et donc, il faudra que les Européens s'intéressent à Taïwan pour de vraies raisons stratégiques et non pas pour des raisons idéologiques.
Donc, tout dépend finalement de l'attitude de la Chine.
Alors, voilà, la Chine, elle a été très claire dans les déclarations à je ne sais quel congrès du Parti communiste chinois. Xi Jinping a dit que Taïwan est partie intégrante de la Chine et que la Chine utiliserait tous les moyens pour qu'elle revienne dans le giron, y compris les moyens militaires. Donc il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas d'ambiguïté sur la politique de la Chine. C'est peut-être une solution militaire si Taïwan ne revient pas de son plein gré, si je puis dire. Et on voit bien que la Chine multiplie non seulement en nombre, mais en qualité, les intimidations militaires, les manœuvres militaires autour de l'île. Et donc, ça, c'est très dangereux parce que aujourd'hui, le statut de Taïwan, qui est quand même tout à fait particulier en droit international. Taïwan n'est pas un État reconnu en droit international. Il n'est pas membre des Nations Unies. C'est la Chine communiste qui a été l'héritière de la Chine des Nations Unies.
Dans un deuxième temps.
Oui, Mais quand même, là, Taïwan n'existe pas en tant qu'État. Et d'ailleurs, la sécurité de Taïwan repose aujourd'hui sur ce compromis à trois. Il ne faut pas que Taïwan déclare son indépendance totale. Il ne faut pas que la Chine attaque militairement Taïwan. Et il ne faut pas que les Américains reconnaissent l'indépendance de Taïwan si elle le déclare. Et donc, ça tient à cause de ces trois ambiguïtés. Mais si l'une des trois tombe, par exemple, si les Américains, comme ils ont flirté, comme ils sont allés très très loin dans la presque sortie de l'ambiguïté, quand Mme Pelosi, qui était la patronne du Sénat, est allée à Taïwan, quand ils ont reçu le président taïwanais en Californie, ils sont allés très très loin vers la reconnaissance de l'indépendance. Les Chinois sont allés très loin de leur côté vers une possible attaque militaire. On est des deux côtés presque en train de vouloir sortir de cette ambiguïté. Je pense que l'intérêt des Européens, c'est de maintenir cette ambiguïté stratégique. Il ne faut pas que ça change. C'est comme ça depuis 72, je crois, 76, pardonnez-moi, je ne me souviens plus. Mais il ne faut pas sortir de cette ambiguïté qui a permis à Taïwan de devenir une grande démocratie et un pays d'une prospérité absolument exceptionnelle. Quel est l'intérêt aujourd'hui de remettre en cause tout cela? En tout cas, les Européens ne doivent pas faire en sorte de soutenir quelque politique que ce soit qui remettrait en cause cette ambiguïté stratégique.
Vous écoutez RFI Géopolitique.
Alors, il y a, Nicole Niesoto, trois points d'inquiétude possibles sur lesquels j'aimerais que vous nous disiez quelques mots. Un, la relation sino-américaine. Deux, l'axe sino-russe, ce qui vous inquiète particulièrement. Et quelques mots sur l'Iran. Après ça, on va parler du Sud global et quelques mots sur le sommet de Rio avec le consensus de Lula sur la faim et la pauvreté. Les points d'inquiétude, Nicole Niesoto.
Oui. La relation sino-américaine est une relation confrontationnelle voulue comme telle des deux côtés. Les Américains, depuis Obama, ont fait de la Chine l'ennemi numéro un du XXIe siècle. Et les Chinois ont développé tout un discours et toute une rhétorique contre l'impérialisme américain et contre le modèle américain de démocratie. Les Chinois ont ajouté un volet idéologique très fort dans la contestation de la puissance américaine. Et donc, il y a cette confrontation, elle est, si je puis dire, inévitable. Et elle a lieu sur tous les plans. On le voit en matière technologique. Donc, par exemple, ne serait-ce que la conquête de l'espace et la conquête de la Lune. Les Chinois sont allés sur la face cachée de la Lune. Les Américains reprennent les vols vers la Lune. Elon Musk essaye d'aller construire des tunnels sur Mars. Donc, on voit aussi bien sur le plan technologique, sur Internet, etc., que stratégique, militairement. La confrontation, pour moi, ce n'est pas une question. C'est une réalité. C'est un avenir. Alors, la vraie question, c'est est-ce que ce duel sino-américain va structurer l'ensemble des relations internationales ou pas. Ce que voudraient les Américains, c'est que tout l'Occident soit comme un seul homme derrière eux pour contrer la Chine. Moi, je pense que ce n'est pas l'intérêt des Européens. Nous avons besoin de la Chine, par exemple, sur la lutte contre le réchauffement climatique. Sur le climat, la Chine, elle est un partenaire. Elle n'est pas un adversaire. L'adversaire, c'est l'Amérique. Et donc, pour les Européens, la situation va être très difficile. Mais ça, voilà, c'est la vraie question. Est-ce que les Européens vont suivre l'Amérique dans cette confrontation? Moi, je pense qu'ils ne peuvent pas. Et ils ne doivent pas. Par exemple, l'Allemagne ne peut pas vivre, l'économie allemande ne peut pas vivre sans le commerce avec la Chine. La deuxième question que vous posiez, c'était sur la relation sino-russe. Alors, il y a eu là, ils ont signé, Poutine et Xi Jinping ont signé un traité d'amitié indéfectible, amoureuse, enfin tout ce que vous voulez. Mais c'est une relation à double tranchant. Les Chinois engrangent des dettes, si je puis dire, stratégiques de la Russie vis-à-vis d'eux-mêmes. Parce que la Chine n'a pas condamné, parce que la Chine essaye de maintenir une position entre guillemets de neutralité, voire même de bons offices si tant est qu'une négociation pourrait s'ouvrir. Donc elle a, et puis au niveau de l'armement, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais quand même la Chine aide la Russie. Donc elle accumule des dettes russe, dont elle pourra se servir un jour si elle en a besoin contre quelqu'un d'autre. Et du côté russe, il y a à la fois donc, l'avantage de ne pas être pénalisé par la Chine, mais il y a surtout quand même la grande humiliation de devenir, enfin, me semble-t-il, un vassal de la Chine, ce qui, pour Poutine, pourrait un jour causer des problèmes. Mais cela dit, je crois que cette relation, elle n'est pas appelée à évoluer de façon trop dramatique. Je ne vois pas du tout la Chine participer directement au soutien de la Russie contre l'Occident, et je ne vois pas non plus la Russie demander officiellement l'aide militaire de la Chine contre les Européens. Mmh. En revanche, sur l'Iran, ça, c'est une relation qui est en pleine évolution et pas dans le bon sens. Pourquoi ? Parce que Donald Trump n'a jamais caché qu'il avait une politique sur le Moyen-Orient qui est une politique de, comment dire, d'encerclement des deux problèmes à ses yeux, c'est-à-dire les Palestiniens et l'Iran, d'encerclement de ces deux menaces par des relations étatiques entre Israël et les pays arabes, ce qu'il avait commencé à faire avec les accords d'Abraham, avec le Bahreïn, le Maroc et peut-être l'Arabie Saoudite. Donc la politique de Trump, elle est assez claire, c'est soutenir Israël et Netanyahou, quoi qu'il arrive, et pour ce faire, contrôler la menace palestinienne, entre guillemets, et la menace iranienne. Et là, il a nommé dans les premières, non pas nomination, mais désignation qu'il a faite pour les responsables du Moyen-Orient, on voit que quand même, il a choisi des personnes qui sont totalement pro-Netanyahou, sans aucune empathie pour la question palestinienne. Je ne dirais pas qu'ils sont sur une ligne des pires colons, mais presque. Et vis-à-vis de l'Iran, Trump a dit qu'une tentative d'assassinat contre lui avait été menée par l'Iran. C'est lui qui est sorti du traité JCPOA par lequel on essayait en 2017 de contenir la prolifération nucléaire iranienne. Et là, en 2017, les Chinois et l'Union européenne ont été ensemble pour essayer de maintenir les Américains dans ce traité parce que c'était vraiment la porte ouverte à la stabilité sur le Moyen-Orient. Il est sorti du traité. Évidemment, les Iraniens, bon, n'ayant plus de négociations à faire, se sont remis à proliférer. Et maintenant, les Américains accusent les Iraniens de proliférer. Donc, c'est vraiment une situation extrêmement malsaine. Donc, moi, je suis très inquiète. Je pense que les Israéliens, Netanyahou, se sont confortés, évidemment, par la victoire de Trump et qu'ils n'hésiteraient pas, si besoin est, à frapper très sévèrement la puissance iranienne soutenue par les Américains et beaucoup plus sûrement que ne l'aurait fait du temps de si c'était encore une présidence Biden.
Alors, on avance, Nicole Niesoto, je voudrais qu'on parle. L'actualité, c'était, je l'ai dit en introduction, le G20 à Rio cette semaine avec le président brésilien Lula qui est parvenu à un consensus, c'est assez finement joué de sa part, consensus sur la faim et la pauvreté. Et il a dit aussi, Lula, que eh bien, l'argent, il était là, comme pour montrer du doigt ces pays qui se font la guerre aujourd'hui et dénoncer le surarmement des uns et des autres. Le Brésil fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global. Quel rôle voyez-vous pour le Sud global, Nicole Niesoto ?
Alors, le Sud global, c'est un slogan qui représente une réalité tellement contradictoire qu'on ne peut pas dire qu'il y a un acteur qui s'appelle le Sud global. Mais dans ce Sud global, il y a des très grands acteurs, en particulier donc la Chine, l'Inde et le Brésil, qui sont les trois grandes puissances donc de cet ensemble. Et je dirais deux choses. Premièrement, le Brésil a montré une très grande agilité diplomatique depuis quelques années. C'est lui qui avait essayé pour la première fois de proposer un compromis diplomatique sur l'affaire iranienne, sur la prolifération nucléaire iranienne, avant qu'on ne signe le traité JCPOA. Les Occidentaux, tellement sûrs de leur superbe et de leur chasse gardée nucléaire, avaient renvoyé le Brésil dans ses bottes en disant « Mais de quoi vous mêlez-vous ? Ça ne vous regarde pas. » Mais je pense que c'était une erreur, évidemment. Et le Brésil, aujourd'hui, de Lula, tente des positions mesurées de compromis, aussi bien sur l'Ukraine que sur l'endettement des pays pauvres, et là vous l'avez cité, donc sur la prise en compte des inégalités, enfin de la détresse d'une grande majorité de la population mondiale.
Je vous interromps deux secondes pour simplement préciser que dans votre livre, donc Choisir l'avenir, 10 réponses sur le monde qui vient, vous voyez la question des inégalités comme l'énigme la plus inquiétante. Et voilà, selon vous, pourquoi la redistribution est-elle si difficile, Nicole Niesoto ?
Moi, effectivement, les inégalités, pour moi, c'est un mystère. Parce que quand on voit le rapport, les différents rapports Oxfam, cette organisation non gouvernementale britannique, qui tous les ans offre au sommet de Davos, c'est-à-dire aux chefs d'État et de gouvernement et aux grands patrons de toutes les entreprises, offre un livre de chevet dans lequel ils lisent tous les ans que 1% de la population mondiale possède autant que 99% restants, et que ça ne les empêche pas de dormir. Moi, j'avoue que je ne comprends pas. Je trouve qu'on marche sur une bombe, que la question des inégalités est véritablement le déséquilibre le plus important de la planète, beaucoup plus important que le déséquilibre des armements, le déséquilibre nucléaire, voire que le déséquilibre démographique. Et alors, effectivement, je pose la question d'Anthony, mais pourquoi n'arrive-t-on pas à redistribuer, je dirais, un peu plus équitablement l'extraordinaire richesse produite dans le monde depuis que la mondialisation a rapproché tout le monde dans le même système économique. Et l'hypothèse que je mets, c'est que tout simplement parce que le capitalisme, pour l'instant, n'a pas besoin de résoudre la question des inégalités. On voit dans l'histoire du capitalisme, il a eu besoin à un certain moment de résoudre la question de la pauvreté ouvrière. C'était quand Ford a dit « il faut que mes ouvriers gagnent beaucoup d'argent pour pouvoir acheter mes voitures ». Et donc là, le capitalisme a intégré la question sociale du revenu ouvrier, de l'autorisation des grèves, etc., etc., dans son histoire, et ça lui a parfaitement profité. Deuxième étape, quand le capitalisme s'est rendu compte que le pillage de la planète, et en particulier sur le réchauffement climatique, pouvait remettre en cause non seulement l'image, mais les profits, les bénéfices des grandes entreprises, parce que l'opinion internationale, maintenant, exige que l'on produise propre, que l'on ait une responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Et donc, le grand capitalisme s'est rallié au capitalisme vert. C'est comme ça qu'Air France plante des arbres chaque fois qu'il fait voler un avion. Et non seulement leur image, mais leur bénéfice s'en est trouvé accru. Et donc, on voit que le génie du capitalisme, c'est vraiment ça. S'il y avait un Chateaubriand aujourd'hui, il écrirait non pas le génie du christianisme, mais le génie du capitalisme, c'est d'intégrer ses propres risques pour en faire des nouvelles sources de profit. Or, aujourd'hui, il ne le fait pas pour la question des inégalités. C'est-à-dire, je pense que le système considère que 1% par rapport à 99%, c'est encore vivable, c'est pas assez. Et qu'il faudrait peut-être que 0,1% possède autant que 99%. 9% pour que le risque soit perçu d'une révolution à la fois donc dans différents pays et peut-être d'un mouvement mondial. Mais c'est la seule explication que je vois parce que sinon c'est incompréhensible. On possède effectivement, comme le dit Lila, la Terre est suffisamment riche, la production de richesses par an est suffisamment phénoménale pour réduire, ne pas pour éliminer les inégalités, parce qu'on n'est pas dans un système communiste, il ne s'agit pas de... Mais pour en tout cas supprimer la faim, déjà. Supprimer la faim, ça c'est quelque chose qui devrait être du normal dans la redistribution des richesses. Or, ça n'est pas le cas.
Et ça s'est même aggravé avec le Covid.
Voilà. Et ça n'est pas le cas parce que je crois que ça n'empêche pas le système de tourner.
Alors, je redis quelques mots et ce sera la fin. Dieu sait que cet entretien aurait pu se poursuivre si l'émission faisait davantage que 40 minutes. Évidemment, là aussi, je reviens à votre livre. Vous évoquez l'idée que l'Occident a péché par excès de triomphalisme, excès de confiance et de dédain. Et vous avez cette réflexion sur la montée des nationalismes. Vous établissez un parallèle entre montée des nationalismes sur la scène internationale et la poussée de l'individualisme sur le plan personnel, sur le plan intérieur, en quelques secondes, une nouvelle anecdote.
Oui, oui, moi je crois qu'il y a un lien entre l'intérieur et l'extérieur. Et d'ailleurs, c'est ce que disaient les Américains, il faut une politique étrangère pour la classe moyenne, parce que maintenant, la mondialisation fait qu'il y a une interaction totale entre politique intérieure et politique extérieure. Et ce qu'on remarque, c'est que aussi à l'intérieur comme à l'extérieur, il y a une remise en cause profonde du système international que l'on a créé en 1945, qui était fondé sur deux choses, la démocratie à l'intérieur et le multilatéralisme à l'extérieur. Or, aujourd'hui, on voit que la démocratie à l'intérieur de chez nous est remise en cause par un excès d'individualisme et le multilatéralisme par un excès de nationalisme à l'extérieur.
Merci, Nicole Niesoto. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de l'Institut Jacques Delors et professeur émérite au CNAM et que vous venez de publier « Choisir l'avenir, 10 réponses sur le monde qui vient » au CNRS édition géopolitique qui était signée Marie-France Chatin avec Cécile Lavolo et Mathias Golchani.